Frédéric Capoulade, adjoint spécial de la fraction de l'île de Levant, commune d'Hyères.
Bonjour Fred, alors quelque part c'est un peu toi le chef de l'île, quelque part.
Ouais, si tu veux quoi, chef de l'île, petit chef, ouais. Je suis quand même adjoint.
Fred, tu es quand même un peu l'histoire du Levant quelque part, parce que depuis des années tu accumules tous les documents historiques de l'île, et quelque part ben, tu es un peu la mémoire.
Oui, ça m'intéresse depuis qu'on s'est installé avec mon épouse. Et puis mon papa avait déjà commencé dans les années 50-60 à accumuler quelques revues. Donc j'ai poursuivi un peu ce qu'avait commencé mon père. Voilà.
Et tu as eu quoi comme vie? Parce que tu as eu une vie avant.
Oui, avant le Levant, j'ai eu quand même une vie. J'ai fait des études au Maroc. J'étais étudiant jusqu'au lycée, jusqu'au bac au Maroc. Puis après, j'ai fait des études de marine marchande. Ouais. Et donc j'ai navigué après plus d'une trentaine d'années, pendant 10 ans autour du monde, et les 25 dernières années entre Marseille et la Corse.
Ah, c'est super. Donc tu as toujours été entouré d'eau, quelque part, parce qu'aujourd'hui tu es sur une île.
Ben oui, tout à fait. Et puis notre maison domine la rade d'Hyères, donc je fais quand même un peu aussi aujourd'hui sémaphore.
Oui, exactement. Je sais de quoi tu parles, parce que bon, de temps en temps, je suis un peu logé chez toi. Donc l'endroit est tout à fait extraordinaire. Oui, donc au niveau du rapport avec les Levantins, parce que la mairie, le Levant, c'est quelque chose qui est privé. Il y a un syndicat, ça marche comment? Comment vous fonctionnez sur l'île?
Alors l'île du Levant, la fraction civile du Levant, parce que ça représente moins de 5% de l'île, appartient à la commune d'Hyères. Et donc c'est un village, donc avec sa mairie annexe, sa poste, ses policiers en été. Et donc c'est un village. Alors le village est constitué c'est un lotissement de 290 parcelles environ. Mais il y a quand même une quinzaine de parcelles qui sont hors lotissement. Donc la mairie est impliquée surtout par la présence de personnel, par la collecte des déchets. Aussi par les navettes quand même, on est relié quand même par les navettes maritimes. Ouais. Et donc les relations sont essentiellement avec le président, l'ASL, l'Association syndicale libre des propriétaires, ouais. qui est l'interlocuteur principal. Quoi.
Et au niveau, par exemple, moi ce qui m'intrigue toujours, c'est que bon, il y a une église, il y a une mairie, quelque part, moi quand je suis arrivé pour la première fois au Levant, je ne m'attendais pas à tout ça. C'est un lotissement, il faut dire ce qu'il y a, il y a des maisons partout, il y a des logements partout, c'est aussi. Entre parenthèses, entre les habitants de l'hiver et les habitants de l'été, tu as une idée des chiffres?
Alors les chiffres, c'est en hiver, on est environ une centaine d'habitants. Ça varie entre 80 et 100, 110 selon le nombre de maçons qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de travaux en hiver. Mmh. Et en été, ça peut monter entre 1500, un peu plus de 1500 logements, quoi. Enfin, lits, si on parle en termes de lits. Quoi. Donc en été, c'est entre 1500 et 2000 personnes tous les jours, quoi, sur l'île.
Et alors, c'est une île. Je sais que les autres îles de l'archipel hiérois ont des problèmes d'eau. Comment vous gérez cet apport d'eau? Parce que c'est, quelque part, c'est un peu du pagnol. Il y a quand même des réserves d'eau en sous-sol.
Oui, à l'origine, il y a eu, quand les docteurs d'Urville ont acheté, ils ont creusé 5 puits. Ces 5 puits étaient destinés à alimenter les personnes vivant sur l'île à l'époque, mais ils ont été vite pollués par les assainissements. Mmh. Et donc, dans les années 70, la mairie a construit un château d'eau et en même temps a foré 2 puits, enfin 2 forages. Donc ce château d'eau est alimenté par ces 2 forages municipaux, et l'eau est mise à disposition du syndicat des propriétaires à la sortie, qui est chargé de distribuer l'eau à la demande quand les gens n'ont plus d'eau dans leurs citernes. Parce que la base de la consommation d'eau sur le Levant, c'est les citernes des particuliers, et quelques forages privés.
Ah oui, donc chaque maison a une citerne d'eau. Et ils utilisent l'eau qui ne doit pas être potable, du coup. Donc on est obligé de boire de l'eau en bouteille quand même sur l'île. Et l'eau est très, 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 très précieuse. C'est quelque chose d'assez extraordinaire.
Tout à fait, là. Donc il y a évidemment une grosse consommation d'eau en place, d'eau en bouteille, quoi. Mm-hmm. Et donc à chacun de potabiliser ou non son eau. Les établissements qui reçoivent du public sont contraints de potabiliser. Hein. Ouais. Et après, c'est une question de gestion. Hein. Au minimum, c'est des filtres et une lampe UV, quoi.
c'est un peu quand même, oui, il vaut mieux se laver les dents avec, d'accord, mais en même temps, il vaut mieux boire de l'eau de la bouteille, c'est un peu le cas de le dire. Et au niveau du flux, je sais que par exemple, par Porcro, ils ont des gros problèmes de fréquentation, est-ce qu'on peut comparer ça au niveau de la fréquentation journalière ou pas du tout ?
Pas du tout, parce que l'essentiel des visiteurs, c'est des gens qui restent quand même quelques jours sur l'île. Après, il y a une petite frange de personnes qui viennent voir l'île de la journée, mais ça ne représente pas grand-chose. Il faut savoir qu'historiquement, dans les belles années, il y avait 80 000 passages sur le Levant. En ce moment, on tourne à moins de 20 000. Ça représente surtout la base étant des gens qui viennent passer une semaine ou un week-end sur l'île, quoi.
Alors, et bon, comme tu es un petit peu l'historien, on va faire un petit truc sur l'histoire de l'île, parce que c'est assez intéressant. Donc, pour nous donner une ordre d'idée, et aux auditeurs aussi, ça a commencé quand exactement, et qu'est-ce que ça représente au niveau du naturisme, le Levant ?
Alors, ça a commencé avec... en fait, c'est les docteurs d'Urville, qui étaient des médecins hygiénistes et naturistes, qui ont créé à Paris qui avait un institut naturiste à Paris dans les années 20-25, et qui ont créé d'abord à Paris un centre qui s'appelle Physiopolis, qui existe toujours d'ailleurs, qui est sur la Seine, à Villennes-sur-Seine, oui. Ils ont créé ça en 1929, mais ils étaient trop proches de la capitale, ils ne pouvaient pas éventuellement développer le naturisme comme ils voulaient, quoi. Surtout dévêtir les gens au maximum, à l'époque, c'était quand même la grande nouveauté. Et donc, ils ont trouvé ce petit bout de terre qui était à vendre, qui appartenait à une société immobilière, qu'il avait racheté à un Belge qui était propriétaire de l'île, et qui représente environ 65 hectares. Et là, ils ont créé le Centre international du naturisme de l'île du Levant en 1931. C'était tout à fait très rustique. En fait, c'était des locations de tentes et des ventes de bungalows très, très rustiques. Mais très vite, il y a eu des maisons en dur. Et donc ça s'est développé jusqu'en dans les années 39, surtout pendant les vacances, jusqu'à la guerre. Et après-guerre, la guerre s'est passée. Après-guerre, grâce à une association qui s'appelle les Amis de l'île du Levant, ça a été l'essor du naturisme au Levant, avec beaucoup, beaucoup de visiteurs. Là, c'était le côté positif, côté négatif, ça a attiré beaucoup de voyeurs. À l'époque, bon, j'étais gamin, je me rappelle, des bateaux qui venaient regarder, qui venaient pour ça, quoi. Ouais. Surtout à la plage des Grottes. Voilà. Mais bon, finalement, ça a vraiment disparu, ce côté voyeur, quoi. Mm-hmm. Mais bon, les gens viennent surtout pour profiter de la mer, du soleil et de la nature, quoi. Voilà, en résumé, c'est le résumé du naturisme levantin.